Le 7-9.
7h42 sur Europe 1. Pour qu'Internet ne serve pas qu'à râler sur les réseaux sociaux, mais aussi à rassembler des citoyens qui débattent, qui proposent, c'est le pari de mon invité. Polytechnicien, ancien patron de Deezer ou de Publicis France, Axel Dauchet a fondé Make.org. Fort de 6 millions de participants, il accompagne la décision publique, locale et nationale. Sur Europe 1 ce matin, Axel Dauchet appelle les entrepreneurs à s'engager sur des questions de société.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Axel Dauchet.
Bonjour.
Alors on reprend notre sérieux, mais avant de commencer, je vous ai observé évidemment à l'écoute de Bertrand Chamerois avec le sourire. C'est le point de départ de notre échange ce matin finalement. Il y a un bug dans la démocratie.
Ouais, bah en fait c'est pour ça qu'on a monté Make.org. Je pense qu'elle est vraiment fragile. En fait, elle est fragile à deux titres. Le premier, c'est que de plus en plus on la soupçonne, et parfois à juste titre, de pas être capable d'agir sur le réel. Vraiment une sorte d'impuissance publique qu'on ressent. Et puis l'autre, qui est bien plus grave, c'est celle qu'elle, finalement, elle ne réconcilie plus les populations, mais au contraire, elle les divise, comme on le voit aux États-Unis en ce moment.
Alors que je sois bien précis, Make.org, vous êtes une entreprise, hein, vous gagnez de l'argent, c'est pas un forum. Votre promesse, c'est d'alimenter le politique, le décideur local ou national, si je vous suis, c'est de l'aider à décider, à agir.
Alors en fait, notre réponse au problème de la démocratie, c'est de réussir à recréer un lien entre l'action individuelle et puis l'impact collectif, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut recréer le socle sur lequel la démocratie peut fonctionner. Et on le fait en accompagnant des États, les institutions européennes ou des villes ou des régions dans la mise en place de démocraties participatives qui sont une manière de réimpliquer les gens.
De manière très concrète, ils vous payent pour que vous impliquiez des gens sur des décisions, des débats de société et des propositions.
Exactement, sur des consultations, des grands débats, des états généraux. On a développé des méthodes hein, qui permettent de co-construire à des millions de personnes avec des parties prenantes, des projets concrets pour les mettre en œuvre.
De façon convention citoyenne, par exemple, c'est un peu l'idée de...
C'est exactement okay. Ça, à plus large échelle.
On va parler de ce que doit, selon vous, être le rôle de l'entreprise dans la transformation de la société. Mais d'un mot, c'est aussi pour clarifier votre action. Vous agrégez des lobbies, en fait. Si je vous pose la question comme ça, vous êtes un peu lobby du citoyen et donc un peu concurrent des politiques aussi, des syndicats, des partenaires, des différents partenaires de la démocratie.
Non, en fait, faut la démocratie, on a l'impression que c'est que l'élection. La démocratie, c'est pas que l'élection, c'est la manière de gérer les affaires. Et dans les affaires, oui, on représente, on est une sorte de manière pour les citoyens d'agir en meute, hein, de pouvoir avancer. En revanche, on s'assure à chaque fois d'être représentatif. Donc on n'est pas ce que beaucoup voient dans les mouvements citoyens, des groupes particuliers. On est vraiment le représentant des consensus de la totalité du pays, et c'est ça qui permet de travailler...
La recherche du consensus. Mais quand je vous posais la question, c'est l'impression que vous voulez court-circuiter un petit peu, en tout cas les organisations les plus classiques. Ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'a peut-être voulu faire Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que c'est un discours anti-bureaucratie, anti-administration que le vôtre ?
Non, c'est intéressant votre question, parce qu'en fait... Un des problèmes, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que les corps intermédiaires, ceux que vous citez, ils ne sont de moins en moins actifs et ils ne jouent plus leur rôle. Donc on n'est pas concurrent d'eux, mais on est une nouvelle manière de réintermédier le lien entre le pouvoir et les citoyens. Donc on est une nouvelle manière de le faire, je dirais.
Et vous appelez en tout cas l'entreprise à prendre sa part, à s'engager dans la vie de la société, plus en France, de façon très concrète. Ce matin, sur Europe 1, vous lancez un appel sur la lutte contre les violences faites aux enfants, un appel au patron.
Oui, en fait, au-delà d'accompagner les États, on a aussi un rôle qui est d'aider la société civile à agir en direct, pas via du lobbying politique, mais vraiment à agir sur la société avec des actions extrêmement concrètes. On le fait sur plein de thèmes, notamment les violences faites aux femmes, les jeunes, l'environnement, etc. Et on a lancé en septembre une grande cause, parce qu'on appelle ça comme ça, contre les violences faites aux enfants, pour protéger les enfants contre toutes sortes de violences. On est avant l'affaire Duhamel, on est à un moment où les violences faites aux enfants, c'est le tabou ultime. Maintenant, on connaît les chiffres, un enfant sur 10, on commence à mesurer ce qui se passe. Mais à ce moment-là, c'était très compliqué. Et qu'est-ce qu'on a vu quand on a lancé cette grande cause ? On a vu un engouement citoyen extrêmement fort. On a eu 500 000 votes en 2 mois, donc quelque chose de absolument gigantesque, comme une sorte de tsunami
citoyen.
Vous
dites vote, mais ce sont des participations, vraiment.
Oui, des vraies participations sur la grande cause. Et en face de ça, une extrême difficulté à mobiliser la société civile structurée, les entreprises notamment, parce que le sujet fait ultra peur.
Mais alors, je veux bien, celui-ci particulièrement, quand on dit le mot inceste, on l'a vu, hein, que ça fait peur. Mais d'une manière générale, peut-être que vous avez du mal à mobiliser parce que l'entreprise va se dire, mais pourquoi c'est à moi de faire ça ? Pourquoi c'est à moi de participer là-dedans ? C'est pas mon boulot.
Alors en fait, depuis 5 ans, il y a eu un basculement dans les entreprises où elles savent que pour garder leurs collaborateurs, elles sont obligées d'être combatives et de s'impliquer dans des actions civiles.
Oui, on l'a vu beaucoup avec des étudiants qui aujourd'hui aspirent à travailler dans des sociétés éthiques.
Et exactement, et celles qui ne le font pas, elles se déconnectent complètement. Donc ça, pour moi, ce passage-là, il est fait. Mais en revanche, ils le font sur des causes comme l'environnement, où toutes les entreprises veulent aller, etc. Mais typiquement, les violences faites aux enfants, c'est une cause orpheline. Parce que les entreprises ont l'impression d'être trop dans l'intimité de leurs collaborateurs. Ils n'ont pas envie de faire d'ingérence. Alors, on a des entreprises courageuses. Là, en l'occurrence, on a eu comme entreprise courageuse la Fondation Kering, on a eu la Banque Postale, donc qui vraiment ont décidé d'y aller.
Les entreprises, quand elles y vont, quand elles vous aident, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Elles investissent chez elles? Elles vous donnent de l'argent à vous? Comment ça marche en vrai?
Alors, sur les grandes causes, elles investissent déjà tous leurs collaborateurs, parce que tous les collaborateurs vont participer à un plan d'impact de 3 ans, et puis elles financent ce programme d'impact de 3 ans qui permet d'agir à l'échelle nationale tous ensemble.
Et vous avez des effets concrets? Je prends les violences faites aux femmes, puisque vous l'évoquiez.
Oui, c'est très intense, parce qu'on est pile à 3 ans après le début, donc on a livré le 25 novembre dernier les 4 actions radicales, où on a notamment, à titre d'exemple, on a convaincu des groupes hôteliers de mettre à disposition des femmes victimes de violences les chambres d'hôtel invendues. Il y a 80 000 chambres d'hôtel invendues par jour en France, hors Covid. Ça multiplie par 3 l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. On a mis un programme complètement civil pour former 40 000 fonctionnaires de police à l'accueil des femmes victimes. Jusque-là, l'État en formait 1 000 par an. Donc, c'est des actions radicales et qui sont d'une dynamique propre à la société civile.
Un dernier mot, Axel Dechet, votre parcours, je l'ai mentionné en préambule, polytechnique, à la tête d'entreprises comme Deezer, Publicis, et puis ce changement de carrière qu'on comprend mieux en vous écoutant ce matin. Ma dernière question est simple, c'est quoi être utile ?
C'est une question que je me suis posée tardivement, parce que je me suis posée pendant très longtemps, je considérais que ma vie professionnelle était un grand jeu et qu'être utile c'était mes enfants. Et puis à un moment les enfants grandissent, et donc à peu près 50 ans, j'ai eu envie de mettre tout ce que j'avais au service d'une cause qui me dépassait, donc il se trouve que c'était Mecmoor en l'occurrence. Mais j'ai donc goûté à une drogue qui est celle de savoir à quoi sert ce qu'on fait, ce qui a l'air d'une banalité totale, mais qui est dans la journée, chaque jour, nourrit incroyablement, et c'est ma vie depuis 5 ans.
Vous avez donné du sens en tout cas à ce que vous faites, et puis cet appel, je le souligne, cet appel au patron lancé sur Europe 1 ce matin, les entreprises, engagez-vous dans la lutte contre les violences faites aux enfants, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Axel Dechet, fondateur de Make.org, un peu d'inspiration ce matin, merci beaucoup.
Merci.
Et je reprends aussi, puisqu'en préparant l'interview, je voyais que vous citiez Edgar Morin. On n'est plus aujourd'hui dans la société du être ensemble, mais du faire ensemble.
Exactement.
À méditer pour la journée. Axel Dechet, polytechnicien, ancien patron de Deezer et créateur de Make.org. Il est 7h05.